Bonjour, la deuxième édition de l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités s'est déroulée fin août 2021. Parmi les figures du monde militant présentes à Nantes, notre invitée du magazine, Geneviève Le Guay, qui s'est racontée dans un livre que nous présente sans plus attendre Patsy.
En 1986, Malik Oussekine est tué par les forces de l'ordre lors d'une manifestation étudiante. Un ministre déclare alors qu'un jeune homme à la santé fragile n'a rien à faire dans une manifestation. En 2019, c'est un président de la République qui se déshonore en affirmant qu'une septuagénaire n'est pas à sa place dans une manifestation interdite par les autorités. Rappelez-vous de ce 23 mars 2019 ? Une compagnie de brutes surarmées charge violemment des manifestants pacifiques, envoyant à l'hôpital une militante niçoise très connue pour ses multiples engagements politiques et associatifs. Cette femme irresponsable s'appelle Geneviève Le Guay et un livre, intitulé « Celle qui n'était pas sage », lui est consacré par les éditions Sileps. En 150 pages, cette militante indocile nous livre un témoignage, celui d'une femme que rien ne destinait à devenir une pétroleuse de choc. Geneviève Le Guay n'est pas née avec un drapeau rouge en guise de layette, bien au contraire. Dans sa famille, on ne roule pas sur l'or, mais on est conservateur, voire réactionnaire. On exècre les rouges, on prie le dimanche et la marmaille fréquente l'école dite libre. Ce sont les expériences professionnelles, les rencontres et la participation à différentes luttes qui lui ouvrent l'esprit, l'amènent à réfléchir sur le monde et la poussent à toujours plus s'engager. Jeune mariée, elle subit les événements de mai 68, même si, sous la pression de ses collègues, elle adhère, honteuse, à la CGT. 10 ans plus tard, elle est transfigurée. La femme conformiste, épouse et mère, a trouvé dans les milieux militants irrigués par le Parti communiste, souffle et humanité. L'anticommuniste est devenu communiste, cégétiste, féministe. « Je milite, c'est ma vie », écrit-elle. Et cet écrit en témoigne. C'est dans ses engagements multiples que Geneviève Le Guay se réalise et se construit intellectuellement. Ni théoricienne ni doctrinaire, elle s'implique dans les mouvements sociaux car ceux-ci sont porteurs d'un souffle indispensable à sa vie. Souffle populaire, souffle de révolte contre l'ordre du monde. Elle aime ce souffle venu d'en bas, ce souffle des petites gens ordinaires qui lui ressemblent tant, dit-elle. Ce souffle qui bouscule l'ordre établi comme elle aime être interpellée par les expériences, les engagements de celles et ceux qu'elle rencontre, comme ces marginaux qui la poussent à remettre en question son rapport au progrès, à la consommation, à la nature. Ouverture d'esprit, enthousiasme, empathie, Geneviève Le Guay n'a rien du militant blasé, calculateur, parfois cynique. Ses responsabilités politiques et syndicales ne l'ont pas transformée en apparatchik et bureaucrate. C'est dans la rue qu'elle est dans son élément, et c'est là qu'un gouvernement de plus en plus autoritaire et délégitimé a tenté de la faire taire un après-midi de mars 2019. Je ne puis que vous conseiller la lecture de ce livre, Geneviève Le Guay, celle qui n'était pas sage, aux éditions Sileps.
Oui, j'écris un livre sur mon militantisme, voilà, qui peut se commander sur les éditions Sileps.
On peut acheter dans les librairies aussi.
Oui. Mais...
Est-ce qu'on est militante ou on devient militante ?
Je pense que ça dépend dans quelle famille on est. Moi, je pense que mes parents, ce n'étaient pas vraiment des militants, mais c'était quand même des militants, enfin, je t'explique. Dans le sens où ils m'ont éduqué, donc, de droite extrême, pétainiste, antisémite, catholique. Ils étaient militants dans leur idéologie, quand même, puisqu'ils nous racontaient tout ça, et puis on allait au catéchisme, et puis on allait à la messe, et tout ça. Alors, j'ai été élevée aussi en citoyenne, ça c'est important. Alors, le 14 juillet, bien sûr, j'avais le drapeau à la fenêtre, ça allait avec, quoi. Donc, j'ai la fibre militante depuis toute petite, mais j'ai changé d'idéologie, voilà.
Parce que c'était une prise de conscience ou en réaction avec le modèle parental ?
Ça s'est pas passé comme ça, parce que mes parents, je les adorais, c'était des ouvriers, ils étaient très aimants et tout. Non, au contraire, quand ma mère parlait, excuse-moi, c'était comme si Dieu parlait. Alors, seulement, à 29 ans, j'ai été confrontée d'aller habiter dans un nouveau quartier de mon village, et le maire fait construire 300 villas, donc 1200 personnes, 250 enfants, pas d'école. Alors moi, j'ai vu rouge, là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas d'école pour ma fille. Et même si on descendait à 1 km, toutes les écoles étaient pleines. Donc, première bataille, j'adhère aux parents d'élèves Cornec. Et puis après, les villas qui ont été construites étaient les planches à landon de briques et de broc. On prenait l'eau par les toits, par les fenêtres, enfin, je t'en passe. C'était des duplex, très beaux, mais tous les matériaux, c'était les matériaux les plus ordinaires possibles. Alors, j'ai monté la Confédération nationale du logement 06, et là, on a commencé à se bagarrer. Et en se bagarrant chez Cornec et la Fédération des locataires et des copropriétaires, parce qu'il y avait beaucoup de petits accidents, propriétaires SNCF, EDF, tout ça, bon. Donc c'était des petits accidents. En fréquentant tous ces gens, j'ai rencontré d'autres personnes que je ne rencontrais pas d'habitude. Et mon niveau a commencé à augmenter, parce que tu sais comment c'est dans ces trucs-là, tu reçois des revues, notamment aux parents d'élèves. Il y avait aussi les instits qui venaient dans les réunions de parents d'élèves pour faire construire une école. Enfin voilà, c'est là que j'ai mis le pied à l'étrier. J'ai adhéré au Parti communiste, parce que c'est le seul parti qui nous soutenait. Et là, j'ai fait les écoles marxistes et tout ça. Bon voilà, je suis devenue quelqu'un de gauche, voilà. Alors c'était pas contre ma mère, mais c'est parce que j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu un autre monde.
Après, ça se passait comment pendant les dîners de famille ?
Il faut savoir que donc, mes parents sont d'origine parisienne, que j'ai vécu 9 ans à Paris et que je suis descendue à l'âge de 9 ans dans le Tarn et que j'ai vécu 12 ans dans le Tarn. Donc quand je me suis mariée avec un cuisinier. On s'est mariés à Nice parce que c'était où Toulouse ou Nice pour la cuisine. Donc j'ai mis 600 km de distance. À Nice, tout se passait bien avec mon mari, ma famille, mes amis que j'avais choisis. Mais quand j'allais dans le Tarn, j'ai tué ma mère en adhérant au Parti communiste parce que ma mère était foncièrement anticommuniste. Alors elle, c'était vraiment les charrues sont arrivées, le couteau entre les dents, enfin tous les symboles qui étaient développés à l'époque. Donc quand j'ai dit à ma mère que j'étais communiste, je l'ai tuée. Voilà, mais bon.
Symboliquement.
Heureusement, symboliquement. J'ai une formation psy, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai jamais failli, quoi. Je suis restée à gauche et encore aujourd'hui, je suis plus au PCF, mais je suis communiste. Je suis ensemble.
Participer à plusieurs luttes.
Oh, j'ai plus arrêté. Je suis une militante de terrain et je tiens à le rester. Je fais les choses comme elles viennent. Donc Cornec, la Confédération nationale du logement, Parti communiste. Mais après, très vite, j'ai une appétence de tout connaître. Ensuite, c'est le féminisme. Il faut comprendre que quand j'ai passé le pas, c'était tout l'inverse de ce qu'on m'avait appris. Tu vois, c'était moi. Excuse-moi, j'étais une très belle femme. C'était sois belle et tais-toi, quoi. Alors que je découvre le féminisme, le contraire, tu vois, ça fait bon. Alors le féminisme, après, ça a été le commerce équitable, ça a été Attaque, que je suis depuis tout à fait le début, et puis les journaux qui vont avec, et une appétence folle de tout connaître, de comprendre. Voilà, après, Attaque dit un autre monde est possible, ben, construisons-le ensemble. Ça me convient tout à fait, tu vois. Et puis le fait de dénoncer, alors au début c'était Attaque Stobine, après les paradis fiscaux, les banques, tout ça, voilà. Donc moi je suis vraiment comme un poisson dans l'eau, dans tout ça, et si tu veux, moi j'ai toujours été, comment dire, je suis pas humble, je suis généreuse, donc dès que je sais quelque chose, il faut que je le dise à la terre entière, tu vois. Et puis je me bats depuis 20 ans, 25 ans pour la convergence des luttes. Je parlais de la convergence des luttes parce que quand les camarades me disent « Mais Geneviève, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu as un tel panel d'associations où tu milites ?» Je leur dis toujours parce que c'est contre le capitalisme, tout est convergent. J'ai presque 50 ans de social et 25 ans d'écologie parce que j'ai mis longtemps, même si j'avais une mère qui nous faisait respecter la nature et tout ça, j'ai pris vraiment conscience qu'il n'y a que 25 ans. Mais enfin bon, c'est déjà pas mal parce qu'il y en a qui n'ont pas encore pris conscience. Et donc moi, mon but tout le temps, c'était qu'on travaille ensemble, le social, l'écologie, le climat, voilà. Et donc là, on est parti pour, puisque maintenant on a une plaquette qu'il va falloir mettre en œuvre sur plus jamais ça, voilà. Alors il y a 30 collectifs qui se sont créés en France, parce que la première plaquette, elle est sortie le 27 mars 2020. Le confinement était là, ça a été dur de faire des réunions visio, mais je suis arrivée quand même à retrouver 11 associations syndicats sur Nice, et on a commencé à discuter. Mais ça a été très difficile, parce que la CGT, elle est vraiment sociale, 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 et les écologistes, manifestent, bon, notamment le maire de Nice veut doubler l'aéroport et on est tous contre, mais le secrétaire général CGT, ah oui, non, mais il faut garder les emplois comme avant. Voilà, et ce mot comme avant, la Greenpeace l'a mal pris, vous voyez, parce que dans les 11, il y avait donc Sud Solidaire, CGT, FSU, puis il y avait, pour nommer les plus grands, hein, Greenpeace, Alternativa, ANV COP21, ATAC, le DAL, voilà. Alors, heureusement qu'ATAC est toujours médiatrice, donc voilà, mais ça n'a pas été loin, c'est tombé à l'eau. Alors qu'en France, il y a 30 collectifs qui ont été montés. Donc là, à la rentrée, je vais m'atteler à ça, de refaire partie, d'essayer de remonter un collectif rouge et vert, comme je dis. Parce que c'est l'urgence. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Si on n'est que rouge ou si on n'est que vert, on n'a rien compris. Donc il faut vraiment mélanger les deux.
Tu es basé sur Nice et tu me faisais part que tu avais participé à la lutte aussi contre le projet d'aéroport sur Notre-Dame-des-Landes.
Oui.
Je me rappelle avoir couvert une marche depuis Nice jusqu'à,
oui,
jusqu'à
voilà,
Nantes. Tu faisais partie de cette marche?
Non, je ne faisais pas partie de cette marche, mais je suis arrivée le jour que la marche arrivait. Donc je suis restée une semaine en tant que niçoise. Je loge chez la même personne qui m'a logée en 2012, en février 2012. Et elle m'a dit très vite, quand elle m'a reçue, elle m'a dit: Geneviève, il faut que tu saches que quand les Niçois sont arrivés, ça nous a reboosté. Parce que ça, tu sais, quand il y a des événements, ça redonne toujours un petit peu d'élan. Et elle était très contente de me le dire, que ça leur avait permis un nouveau souffle, toi. Voilà. Ce que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est que je suis aussi une personne qui négocie tous les contre G7, les contre G20, contre le traité de Nice. Donc c'est moi qui vais à la préfecture et qui négocie tout ça avec souvent le camarade de la FSU. Et j'y suis moi en tant que femme, pour pas qu'il y ait que des hommes qui aillent négocier en préfecture. Voilà.
Avoir du soutien localement d'autres collectifs qui viennent de France, de Navarre et du monde, ça c'est important, mais l'issue de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que ça remotive, rebooste les collectifs militants?
Ah ben ça, ça a été vraiment très très bien, ça a été une bouffée d'air pur de voir qu'on pouvait quand même gagner, parce que oui, j'ai l'habitude de dire que les gilets jaunes ne sont pas sortis pour rien, ça faisait des années qu'on ne gagnait plus rien, que ce soit les syndicats, que ce soit les partis politiques, et la victoire de Notre-Dame-des-Landes, ça a été plus qu'une bouffée d'air, on peut encore gagner, voilà, mais bon, après la victoire de Notre-Dame-des-Landes, excuse-moi, mais on n'a plus rien gagné non plus. Alors, regarde Bure, ils avancent pas. Quand même, quand on voit les manifs des gilets jaunes et tout ça, il y a de l'amertume. Je veux dire, quand on sait tous les milliards qui vont dans les paradis fiscaux, les Bernard Arnault qui a fait 42 milliards de plus rien qu'en 2020, et qu'il y a des gens qui ont 600 euros pour vivre par mois, à un moment donné, c'est la colère, tu vois, c'est la colère. Vivre au lieu de survivre, tu vois. Moi, j'ai adhéré aux gilets jaunes quand j'ai vu deux femmes sur les ronds-points, parce que le premier jour, le 17 novembre 2018, je me suis dit, allez, encore des gens qui revendiquent, enfin bon, je ne dis pas exactement quoi, et je n'avais pas banalisé, mais bon. Mais le 18, je suis devant ma télé, rarement, et là j'ai le plateau repas, je regarde et je vois monsieur qui pose des questions, qui dit à une femme: vous êtes gilet jaune pourquoi sur un rond-point? Et elle dit: j'ai 600 euros, le 3 du mois j'ai plus rien donné à manger à mes enfants. Il passe à la deuxième: madame, vous êtes gilet jaune pourquoi? Ben, j'ai 800 euros, quand j'ai payé le loyer j'ai plus rien. J'ai dit: enfin les pauvres descendent dans la rue. Et là j'étais gilet jaune tout de suite, parce que moi ça fait des années que je lutte, et j'avais remarqué quoi? J'avais remarqué que les pauvres, alors parce que moi je suis dans la rue, je fais signer des pétitions, j'avais remarqué que ce que j'appelle les pauvres, hein, ceux qui ont 600 euros, 800 euros, 1000 euros pour vivre par mois, on ne peut pas vivre avec ça. Et quand on disait: regardez, signez notre pétition, parce que regardez ce qu'ils nous font à nous les pauvres, dès que je prononçais le mot pauvre, les gens se recroquevillaient et partaient. Et ça, j'avais remarqué plusieurs fois. Et je me suis dit, il faut faire attention à ce mot, parce que les gens pensent que c'est eux qui gèrent mal leur budget. Et en fait, quand les gilets jaunes sortent, ils ont compris que ce n'est pas eux qui géraient mal le budget. Ils ont compris que c'est, on ne leur donnait pas pour vivre. Voilà. Et notamment quand, alors je saute un peu du coq à l'âne, mais ça se rejoint aussi, je fais des interventions scolaires depuis 20 ans pour le commerce équitable. Donc j'avais remarqué que quand je parlais des pauvres paysans du sud, du monde, il y avait des gosses qui étaient tristes, parce que je parlais de pauvreté au sud, mais je parlais à des pauvres du nord. Après j'avais trouvé une phrase qui disait: c'est pas une honte d'être pauvre, honte à ceux qui créent la pauvreté. Et je disais toujours aux élèves, dans les interventions scolaires, il n'y a pas un grand Manitou qui dit « je veux que le monde soit pauvre, le Sud soit pauvre ». Mais de par nos institutions, de par une façon de fonctionner, on crée de la pauvreté. Le 23 mars 2019, soi-disant, c'était interdit de descendre manifester parce que le lendemain arrivait le président chinois. Donc moi, d'habitude, je manifeste avec mes filles, mes trois filles, mes petits-enfants. Mais ce jour-là, tout le monde était dispersé. Je suis descendue toute seule. Dans ma voiture, vite fait, j'ai pris le drapeau de la paix sans faire esprit parce que j'ai plein de drapeaux, Attac, CGT et compagnie. Et le drapeau de la paix, et j'ai traversé la place et je suis allée dire « Liberté de manifester ». Il y avait pléthore de policiers, de CRS, des nationaux et des gendarmes. Donc, moi, je criais « Liberté de manifester » avec mon drapeau et tout ça. Et puis, alors que tout était calme, qu'il ne se passait rien, ça faisait 4 mois de gilets jaunes à Nice, il n'y avait même pas une poubelle renversée, à un moment donné, j'allais partir, parce que de 10h à midi, j'avais dit que je serais à Garibaldi, et après, je devais monter avec les gilets jaunes pour défiler à la gare. Et à 2 secondes près, j'allais partir, quand j'ai fait un dernier tour avec mon drapeau en disant « liberté de manifester », qui était un droit constitutionnel, c'est ça que je revendiquais. Et on est en train de perdre toutes nos libertés. Donc je revendiquais ça et j'ai rouvert les yeux à 6h30 du soir. Je suis restée inconsciente 6h30 parce qu'ils m'ont matraquée par derrière. Je n'ai absolument rien vu. Et j'ai rouvert les yeux à 6h30 à l'hôpital. Mes filles étaient là et les docteurs ont dit que j'allais mourir parce que j'ai un très grave traumatisme crânien et que si je ne mourais pas, je serais un légume. Et 3 jours après, ils ont rappelé mes filles en disant « Votre mère, elle est costaud de chez costaud ». Et alors, une petite anecdote, je suis en train de passer devant des experts judiciaires, des experts des assurances et tout ça, parce que j'ai été touchée à plein d'endroits, les yeux, enfin, le crâne, j'ai eu le rocher de l'oreille droite fracturé, enfin, j'ai eu plein de trucs. Et il lit pendant 1 heure sans me regarder, et au bout d'une heure, il lève la tête, il me dit « Madame, comment ça se fait que vous êtes en vie ?» Et c'est pas le seul. Tous les docteurs ne comprennent pas pourquoi je suis en vie. Alors j'ai l'habitude de dire, je ne crois absolument aucun Dieu, mais je suis une miraculée.
Une sainte laïque.
Non, pas, surtout pas une sainte. Surtout
laïque,
pas une...
laïque.
Oui, mais même. Non, laïque sûre, mais pas sainte. Parce que j'ai des gros défauts. Et justement, je me retrouve chez le psy depuis 2 ans, parce que je connais mes défauts. Et comme les gens me portent haut, comme une sainte, on va dire, comme une madone, je ne sais pas comment dire, un symbole, enfin, une idole, j'en sais rien. Et ça, c'est gênant pour moi, parce que je sais très bien que j'ai des défauts, comme tout le monde.
Heureusement. Tu as porté plainte ?
Ah oui.
Sur quel motif ?
Alors, il y a plusieurs plaintes. Une plainte sur le fait qu'il ne se passait absolument rien. Il y a même un capitaine de gendarmerie qui a refusé d'obéir au commissaire qui commandait la place Garibaldi. Donc, il dit qu'il a refusé les ordres dans son rapport parce que, justement, il ne se passait rien. Il a refusé de charger. Donc, j'ai porté plainte pour cette charge qui n'était pas, comment dire, légitime. C'est bon le mot.
Parce qu'il y a des charges qui sont légitimes.
Oui. Non, mais disons que, sans légitimer, si quelqu'un met le feu, je sais pas. Enfin, là, il se passait rien.
Merci à Geneviève Leguet pour sa libre participation à ce programme, ainsi qu'à Patsy pour sa libre présentation de Geneviève Leguet, celle qu'il était passage, livre paru aux éditions Syleps.